Le territoire des Sikhs. Renforcer les dynamiques collectives et coopératives.
Comment mieux gérer les délégations dans la coopérative ?
Kérouche, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre travail qui est initié par des sociétés coopératives d'intérêt collectif du Pas-de-Calais autour des moyens d'améliorer l'animation collective et coopérative de ces entreprises. Et un des sujets qui a été souligné comme important par le groupe de travail qui réunissait certains de ses responsables, c'est la question de la délégation finalement. Comment faire pour être le plus efficient possible dans la question délicate de la délégation. Mais peut-être d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors moi je suis Marie Kérouche, donc je suis directrice pédagogique de l'école Willy Chamings. Je pense que c'est à ce titre, entre autres, c'est à ce titre que vous avez souhaité m'entendre. Donc l'école Willy Chamings travaille depuis de très longues années sur les questions de pouvoir et de délégation. Et enseigne en fait à des managers, des dirigeants, toute personne en situation d'exercer un pouvoir, les phénomènes particuliers qui se tissent au sein de ces relations dites dissymétriques. Voilà.
Puisque justement, lorsqu'on parle de délégation, il s'agit bien de délégation de pouvoir en fait. Peut-être justement pouvons-nous commencer par se demander pourquoi c'est surtout en cas de difficulté finalement, lorsque ça frotte, qu'on commence à s'intéresser ou à regarder de plus près la question des délégations.
Oui, alors, vous l'avez dit, effectivement, la délégation, c'est toujours une délégation de pouvoir. C'est un pléonasme, en fait. Contrairement, d'ailleurs, à ce qu'on peut entendre dans le vocabulaire managérial usuel, où on peut entendre parler de délégation de tâches, à l'école Chamings, on parle de délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va parler de la possibilité de déléguer du pouvoir à une personne, à part entière, avec ses désirs, avec ses besoins d'accomplissement, avec son énergie, avec son intelligence. Et donc, on va déléguer uniquement des pouvoirs et non pas des tâches. Sinon, on a affaire à une machine ou un esclave. Mais donc, et alors, c'est là que c'est intéressant, justement, de parler de la question du pouvoir, parce qu'il se situe exactement à la frontière entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que dès lors que des personnes vont se rassembler pour créer ensemble quelque chose qui va dépasser les individus, et notamment depuis la nuit des temps, créer ensemble les conditions de développement, de déploiement des individus, les collectifs en fait réalisent des choses qui sont inaccessibles aux individus isolés. L'être humain n'aurait pas survécu s'il n'avait pas cette capacité de se rassembler pour créer des choses. Il va falloir décider pour créer quelque chose de qui fait quoi. Je voudrais peut-être reprendre d'abord cette question de la délégation à son début. Le pouvoir, pour nous, à l'école Chamings, vient toujours d'en haut, c'est-à-dire d'une raison supérieure que les êtres humains placent au-dessus d'eux, au-dessus des individus, pour garantir en fait que le groupe va être capable de produire les conditions, les biens, les services qu'il est censé produire. Donc le pouvoir vient toujours d'en haut, d'une raison supérieure. Donc le roi dans les royautés, le dirigeant, le président, même dans le cas d'une démocratie, c'est que en fait on a placé le peuple comme raison supérieure, en fait le bien commun comme raison supérieure, et donc on a écrit par exemple en France la Déclaration des droits de l'homme, dont découle en fait notre constitution et toutes les lois qui s'en suivent. Alors pour une délégation juste, on va déjà se représenter que cette délégation vient d'en haut. On ne peut déléguer des pouvoirs en fait que si on en dispose soi-même. On va déléguer une partie de ses pouvoirs à quelqu'un. Et donc pour qu'une délégation fonctionne bien, en fait, il va y avoir trois composantes à cette délégation. Je vais les représenter en fait par trois figures, en fait trois symboles que je vais appeler le roi, la reine et le royaume. Donc le roi, c'est la composante de la loi, donc du cadre. Il va falloir en fait que cette loi, ce cadre soit suffisamment solide, suffisamment clair, suffisamment repéré, mais pas trop non plus pour pouvoir laisser de la place à la deuxième composante de la délégation, qui est la reine. La reine, en fait, c'est l'espace vide, l'espace de liberté qui va être laissé aux délégataires pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir pleinement, en fait, déployer ses potentialités. Donc, et il faut bien, du coup, que le cadre soit ni trop grand, parce que dans ce cas-là, le délégataire est perdu avec une reine qui est beaucoup trop vaste et puissante, mais ni trop étroit non plus, pour qu'il ait suffisamment d'espace pour pouvoir se déployer. Et puis, il y a une troisième et dernière composante, qui est donc le royaume, qui n'est pas des moindres, qui sont en fait les moyens matériel concret qu'on va donner au délégataire pour pouvoir réaliser réellement correctement sa mission. Il peut y avoir parfois des défauts à cet endroit-là, par exemple des personnes qu'on met dans des postes avec un titre et apparemment une très grande liberté, mais par contre on ne leur met aucun moyen et donc en fait c'est une fausse délégation, ils ne vont pas avoir les moyens de réaliser quoi que ce soit finalement, c'est un peu des placards dorés. Voilà, donc il y a ces trois composantes-là à la délégation, le cadre, l'espace de liberté qui va être fourni et les moyens matériels et concrets, donc le roi, la reine, le royaume. Donc peut-être déjà à cette phase-là de mettre en place la délégation, on peut regarder qu'est-ce qui a pu se passer.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on revient sur des figures traditionnelles finalement de représentation du pouvoir, dans un contexte, celui des coopératives, qui est marqué souvent par une concentration importante de personnes qui sont rebelles à l'autorité et qui remettent effectivement en question dans l'entreprise un ordre établi qui était extrêmement hiérarchisé. Hein, le milieu du 19e siècle et les premières coopératives ouvrières, par exemple, c'est lutter contre le salariat indigne, qui était le fait de maître qui avait tout pouvoir, finalement. Je trouve que c'est extrêmement important parce qu'il y a dans cette difficulté peut-être spécifique des coopératives à trouver le juste équilibre, on pourrait dire, entre cette revendication et cette lutte pour une forme de démocratisation de l'entreprise, et puis la reconnaissance de comment ça fonctionne véritablement, ces questions difficiles de pouvoir. Dans un processus qui se veut démocratique, c'est la loi qu'on met au-dessus, c'est-à-dire que le collectif, l'assemblée des personnes qui veulent faire quelque chose, et dans le cas d'une SIC d'intérêt collectif, eh bien, mettent au-dessus d'eux cet objet et les quelques règles qui vont permettre de réaliser cette ambition.
Avant, tous les pouvoirs étaient concentrés en fait, entre les mains de quelques personnes, une ou deux familles. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai parlé depuis le début de l'idée que, en fait, la délégation, ces questions sont traitées à l'école Chamings du point de vue des personnes. Parce qu'en fait, dans ce qu'on décrit du fonctionnement des maîtres de forge, voilà, des entreprises anciennes, la question de la personne n'était absolument pas posée. Les ouvriers étaient simplement considérés comme des moyens, des bêtes ou des machines. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire du développement industriel qui passe par là, en fait, hein, où on va instrumentaliser en fait, certains êtres humains au bénéfice d'autres pour produire des biens et des services, mais sans prendre en considération les personnes. Or, notre société évolue. Et cette découverte, en fait, que chaque être humain est une personne et que légitimement, chacun peut être amené à se déployer, qu'on va considérer, en fait, l'égalité des personnes, c'est très récent, en fait. C'est une acquisition récente et qui est en train de se déployer. Alors, une des spécificités, en fait, des SIC, c'est que les personnes vont avoir, au sein du collectif, plusieurs statuts. C'est à la fois merveilleux parce que donc ça va permettre en fait à des personnes de se déployer dans différents domaines, dans différentes potentialités, déployer en fait des capacités de diriger, des capacités de décider, des capacités aussi de faire quelque chose en tant que salarié. mais ça va aussi alimenter une confusion qui est très fréquente, en fait, chez nous tous. Hein, c'est que nous sommes tous confrontés à cette difficulté-là, qui est de confondre la personne et le rôle qu'elle est amenée à jouer, ou les rôles, plus exactement. Donc, pour nous déployer en tant qu'êtres humains au sein des collectivités, nous sommes très souvent amenés à utiliser les rôles que nous jouons, et en particulier dans notre travail, et ce que nous pouvons réaliser au sein d'un collectif, va nous permettre de nous déployer en tant que personne. Et il peut y avoir beaucoup de confusion à cet endroit-là. Parce qu'en fait, le rôle, il est vraiment lié en fait, à la délégation, justement. Pour qu'un collectif avec des objectifs de production de biens ou de services fonctionne bien, il va être nécessaire en fait, pour les personnes de mettre à disposition de ce collectif une partie de ses compétences, mais une partie seulement. Ça veut dire aussi que volontairement, les individus vont devoir inhiber une partie de leur potentiel. On ne va pas tout réaliser au sein d'un rôle en particulier pour qu'il soit bien joué, c'est simplement une partie. À cet endroit-là, ça peut être très délicat dans les coopératives, c'est particulièrement délicat dans une coopérative pour les personnes de bien regarder à quel endroit elles jouent quel rôle. À la fois, elles sont en partie propriétaires de la structure, elles ont un rôle à jouer sur le plan des décisions à prendre à certains moments précis. Et puis, elles vont aussi être salariées, donc, avec des rôles et des missions pour certaines, des rôles et des missions bien définis qu'elles vont avoir à remplir et qui seront différents et à un autre moment que celui d'associé, par exemple, ou de coopérateur.
Oui, donc il peut y avoir une confusion à la fois entre les rôles et peut-être aussi, si les choses ne sont pas clarifiées, un manque de repérage de jusqu'où on peut aller dans son rôle. Pour ça, par rapport à la question telle qu'elle était posée, on peut imaginer effectivement ce qu'on avait commencé à examiner, c'est-à-dire le début de la délégation. Ensuite, il y a la question de l'exercice de la délégation. Et puis, il y a la question de la régulation, y compris quelquefois à chaud en situation, où une personne qui a eu une délégation finalement sort du cadre et donc doit être régulée d'une certaine manière.
Oui, alors ces questions-là se passent entre des personnes. Hein. On parle ici du conscient du pouvoir, de toute la partie repérable et rationnelle sur laquelle, semble-t-il, normalement, si on s'y prend correctement, tout le monde peut se mettre d'accord assez facilement. Voilà. Mais il y a une partie inconsciente aussi dans le pouvoir, une partie que nous, on appelle plutôt la partie de la puissance, c'est-à-dire finalement toutes les potentialités des personnes, tous leurs besoins. Et finalement, lorsque le cadre de délégation n'est pas suffisamment repéré, ce qui va prendre le relais, c'est le charisme des personnes, leur puissance personnelle, de manière plus ou moins sauvage, selon que le rapport à l'autorité par ces personnes est suffisamment clarifié ou pas. Vous avez parlé de comment on met en place une délégation et comment on la fait vivre ensuite. Le délégataire et le délégant. Donc le délégant va donner une délégation à un délégataire. C'est un peu comme s'il lui donnait un périmètre à l'intérieur duquel le délégataire peut réaliser ce qu'il a réalisé, et en dehors de ce périmètre, il ne peut pas. Voilà, il y a une limite. Donc il va falloir, cet acte de délégation, que déjà ce périmètre il puisse être discuté, qu'il soit, comme je l'ai dit en début de notre entretien, à la fois suffisamment large, mais aussi suffisamment ajusté à la personne, à ses compétences, à ce qu'elle souhaite faire, et suffisamment repérable pour qu'elle s'y sente à l'aise, hein, qu'elle puisse, un peu comme un costume qui soit à sa juste taille, et puis en même temps suffisamment aussi ambitieux, pour qu'il y ait un challenge un peu à relever. Si c'est trop étroit, ben assez vite, la personne va s'y sentir mal et franchir les limites du périmètre assez facilement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans la vie de la délégation, il y a effectivement un certain nombre de pouvoirs qui ne vont pas pouvoir être délégués, qui vont être ce qu'on appelle les pouvoirs indélégables, en fait. Premier des pouvoirs indélégables, c'est la coordination. Il faut voir un peu comme un chef d'orchestre, le délégant, qui va devoir forcément avoir une vue d'ensemble pour veiller à ce que chacun exécute bien sa partition et puis soutenir un peu les basses si elles sont un peu trop faibles, aller vérifier qu'il y a de la place pour que le triangle joue aussi sa partie. Voilà, donc cette vue d'ensemble, en fait, elle ne peut pas être déléguée. Il y a un autre pouvoir indélégable qui est le pouvoir de décision finale. Il faut avoir conscience que il y a des moments où il va falloir trancher un certain nombre de choses. Si le délégataire, à un moment donné, est en difficulté sur une partie de sa mission, il n'arrive pas à prendre une décision et que ça traîne trop, eh bien, il faut que le délégant au-dessus soit capable de trancher, de prendre une décision. Et de toute façon, c'est lui qui portera la responsabilité des choses. Au final, on ne délègue pas une responsabilité. Hein. La responsabilité reste au niveau du plus haut. Et donc, dans le cadre d'une SIC, ben, au niveau du collectif, ça retombera de toute façon sur le collectif. Et puis, dernier pouvoir indélégable, vous l'avez évoqué, c'est le pouvoir de contrôle. Alors là, il ne faut pas l'entendre comme un contrôle inquisiteur ou voilà, une prise de pouvoir sur ce que fait la personne, mais la juste contrepartie de la délégation, c'est le rendre compte. Et ça, ce n'est pas une chose forcément évidente pour tous. Les rebelles à l'autorité que nous pouvons être ont parfois de la difficulté avec cette partie-là. Or, c'est une contrepartie tout à fait automatique. À partir du moment où nous nous retrouvons avec des pouvoirs qui sont délégués, nous avons à rendre compte de ce que nous avons fait de ces pouvoirs-là à l'autorité qui nous les a confiés, et donc régulièrement pouvoir revenir vers le délégant pour lui dire « j'ai pu faire ça, j'ai pas pu faire ça ». Voilà, c'est à cet endroit-là que parfois ça peut aussi dysfonctionner.
Cette analyse permet vraiment de revenir sur, je crois, une difficulté majeure pour les coopératives, c'est de trouver finalement ce qui peut être juste dans la précision de la délégation entre le collectif et l'individu. C'est-à-dire qu'il me semble que deux dérives potentielles, c'est lorsque le groupe ne veut rien déléguer, finalement, ou à la moindre occasion, on considère que c'est le collectif qui va être suffisamment mature pour gérer, finalement, sans précision ou sans délégation plus précise, l'ensemble du projet. Et la deuxième dérive, entre guillemets, ou deuxième risque, c'est au contraire que le collectif délègue tout à une personne sans garder ce pouvoir ultime de contrôle, en fait.
Mais oui, alors ça, c'est un vieux rêve, voilà, très, très répandu, que finalement, il ne va pas y avoir nécessairement besoin de mettre une loi. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants répugnent finalement à édicter une loi qu'ils vont devoir s'appliquer à eux-mêmes. En fait, c'est ce vieux rêve de liberté totale qui, finalement, pour nous, reste une difficulté, une panne dans le déploiement des personnes et de la conscience des personnes. Il ne faut pas pour autant oublier que l'individu se développe au sein d'un collectif et que pour que ce collectif-là vive bien ensemble, eh bien là, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici qu'une loi, alors aussi juste que possible. Sinon, s'il n'y a pas de loi claire qui s'applique, ben on en revient à la toute première loi qui est la loi de la jungle, donc c'est la loi du plus fort. C'est celui le plus fort qui l'emporte. Donc, c'est un retour, en fait, à des formes archaïques de vivre ensemble qui sont toujours possibles, hein, qui nous guettent toujours.
Donc, on peut se demander, c'est peut-être là où ce serait intéressant de préciser en conclusion, comment faire pour être le plus juste possible, finalement, dans ces tensions permanentes? Comment donner, finalement, des pistes pour que les responsables des coopératives et des SIC en particulier puisse progresser. Avec cette idée que ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais absolu, mais qu'il y a peut-être comme ça quelques réflexes, champs d'action qui seraient particulièrement justes.
Par rapport à cette dialectique loi-liberté, est-ce que trop de lois, trop de liberté, comment est-ce qu'on fait? Il y a quand même un autre repère aussi qu'on peut prendre. Il n'y a pas deux dimensions et ou bien c'est l'une ou bien c'est l'autre, mais il y a ces deux dimensions-là et toujours une troisième en fait. Ce sont les moyens matériels et concrets de la situation qui vont aussi amener un éclairage sur ce qui va être judicieux de faire. Et ça ne sera pas la même chose selon la situation dans laquelle nous avons à travailler ensemble. Qu'est-ce que nous dit le concret? Qu'est-ce que nous dit le temps que nous avons? Peut-être un point aussi encore sur la délégation et la question du pouvoir. La délégation, en fait, a toujours un début et une fin. C'est lié à notre rôle. Et c'est là aussi où il y a une distinction qui est à faire entre le rôle et la personne. Nous ne sommes pas les rôles que nous sommes amenés à jouer. La personne, elle a une existence propre qui va aller du début de sa vie à la fin de sa vie. Alors que les rôles que nous sommes amenés à jouer nécessairement ont un début et une fin. Et ça, c'est aussi un des grands principes d'une délégation juste. Mais il y a vraiment une idée là de début et de fin et de finitude aussi, donc, qui est à accepter, à regarder, à accepter. Voilà.
J'aimerais, avant de finir, peut-être qu'on clarifie quelque chose parce que, comme on peut le voir dans les SAS notamment, ou même dans les SA, les statuts peuvent prévoir une délégation de pouvoir à un conseil de surveillance qui lui-même va déléguer un directoire qui peut être composé d'un collège de 3 ou 4 personnes. Est-ce que, d'une certaine manière, ça peut fonctionner sous cette forme-là, ou est-ce qu'il y a de toute façon à aller jusqu'au bout d'une délégation d'une personne ou de rôle à des personnes précises au sein de ces collectifs?
Alors moi, je ne vais pas avoir de réponse toute faite à cette question-là. Ce qui est assez clair, c'est que à un moment donné, il y a des fonctions opérationnelles qu'il va falloir remplir et que ces fonctions-là vont l'être par des personnes. Et que les personnes, chacun d'entre nous, a des besoins fondamentaux. Et parmi ces besoins, il y a le besoin d'être reconnu, le besoin d'être écouté, le besoin d'avoir des repères clairs. Et donc, ces besoins-là, quoi qu'il se passe, il va bien falloir qu'ils trouvent, à un moment donné, leur marque, qu'ils puissent s'accomplir au sein du collectif. Alors, si les personnes au sein de la structure qui sont en charge de la faire fonctionner, qui sont en charge de remplir des rôles opérationnels, ne trouvent pas au sein du collectif la réponse à ces besoins-là, on va avoir à nouveau des risques de dysfonctionnement et des risques de retour de formes plus archaïques d'exercice du pouvoir par le biais en fait, de l'expression des puissances personnelles. D'ailleurs, on peut observer quand même que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'au sein d'un collectif, quand les rôles ne sont pas très bien repérés, c'est finalement celui qui est le plus charismatique ou celui qui a déjà une expérience, enfin qui va avoir une aura comme ça, qui va remplir ce rôle-là, mais de manière non dite, non explicite. Mais c'est vrai que en cas de crise, en cas de difficulté, c'est là qu'on va avoir des tensions qui vont apparaître, y compris au sein même du collectif qui est censé porter la délégation.
Quelles seraient peut-être, pour aller plus loin, les lectures ou les pistes de travail pour les responsables des SIC qui souhaiteraient, à partir de ces idées et de ces éléments qui peuvent aider à la réflexion, poursuivre leur travail sur cette question de la délégation?
Alors, moi je conseillerais le livre de Lily Jatiot, Vie quotidienne du pouvoir. Donc Lily Jatiot qui a été pendant très 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 longtemps dirigeante de l'école Willy Chamings et la directrice pédagogique. C'est vraiment un livre repère pour toutes les personnes qui se questionnent sur la meilleure manière d'exercer un pouvoir juste et dans lequel elles vont pouvoir aussi repérer les différents dysfonctionnements. Ce qui est délicat, c'est le rapport que nous avons à notre propre puissance. Finalement, c'est souvent de ça que nous avons peur, c'est non pas d'être écrasé par les autres ou d'être soumis aux puissances des autres, mais c'est notre propre puissance qui finalement nous fait le plus peur.
Merci beaucoup. Pour une deuxième référence, peut-être, je pense à Eugène Henriquez, donc psychosociologue, qui a écrit « Les jeux du pouvoir et du désir dans l'entreprise hein, » chez Declay de Brouwer en 1997, et qui montre aussi finalement les différents types d'organisations dans lesquelles l'organisation à la fois du travail et du pouvoir peut se distinguer. Merci, et puis à bientôt pour continuer à échanger sur ces sujets.